les podcasts de Radio Vatican.
Fin du sommet international sur l'eau et le climat. Il s'est tenu à Rome du 23 au 25 octobre et a rassemblé de nombreux experts, ONG et responsables des grands bassins fluviaux de la planète, de l'Amazone au Mékong en passant par le fleuve Niger. Objectif de ces trois jours de débats et de tables rondes, réfléchir aux conséquences potentiellement graves du réchauffement climatique sur les ressources en eau douce de la planète, sur les fleuves, les réseaux hydriques et les écosystèmes. À l'approche de la prochaine conférence COP23 qui aura lieu à Bonn, en Allemagne, du 6 au 17 novembre. Les participants au sommet de Rome ont donc voulu alerter les États et les agences onusiennes sur l'importance de l'attention à accorder à l'eau et à la nécessité d'une réaction rapide et coordonnée pour en protéger l'accès et la qualité. Nous avons recueilli l'analyse de Jean-François Donzier, secrétaire général du Réseau international des organismes de bassin, présent à ce sommet.
On dit entre nous, l'eau douce, c'est une bombe à retardement qui menace toutes les sociétés humaines, ou à l'inverse, l'eau est la première victime du changement climatique. Parce que le climat change et ça perturbe complètement le cycle de nos rivières, mais aussi d'ailleurs de nos aquifères. Et il faut qu'on réagisse pour nous adapter le plus vite possible, avec des effets désastreux, c'est-à-dire une augmentation très forte de l'intensité et de la fréquence, d'abord des inondations, liées à une plus grosse pluviométrie, voire à des cyclones ou à des tornades, comme on les voit en ce moment dans les Caraïbes, par exemple, ou dans les zones de mousson en Asie. Et puis à l'inverse, et parfois au même endroit, ces périodes d'inondations vont être suivies par des sécheresses, elles-mêmes beaucoup plus fortes et beaucoup plus fréquentes que celles qu'on a connues. Donc il faut qu'on fasse quelque chose, sachant qu'en même temps, on avait des réservoirs naturels d'eau dans les montagnes, avec la neige pendant les périodes d'hiver et les glaciers, et que malheureusement, avec le réchauffement, la neige va moins tomber, donc on en aura moins pour alimenter les rivières au printemps, et les glaciers, par contre, vont fondre plus vite, donc on aura plus d'eau pendant quelques temps, avant que les glaciers eux-mêmes aient disparu. Et vous savez que beaucoup de montagnes dans le monde vont voir disparaître quasiment la totalité de leurs glaciers. Et là, alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant les périodes sèches des étés ? Puisqu'aujourd'hui, c'est essentiellement la fonte des glaces, les glaces de montagne, glaciers, qui alimentent nos rivières ou nos nappes souterraines. Donc tout ça, c'est des problèmes très importants. Et on a été beaucoup à se mobiliser pour dire « Attention, vous avez fait 20 réunions sur le climat pendant 20 ans et il a fallu attendre la COP21 de Paris pour que vous y mettiez l'eau douce. » Or, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'eau douce ? On est vraiment très ennuyé, à la fois bien entendu pour des problèmes de santé publique, d'hygiène avec l'eau potable, mais aussi l'alimentation avec l'irrigation. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que l'eau douce, c'est également par nos fleuves un moyen de transport. C'est également un moyen de produire de l'hydroélectricité. Et puis, c'est un moyen de refroidir les centrales thermiques d'électricité. Et dans plusieurs de nos pays, notamment nous en France, refroidir les centrales électronucléaires. Et si on a des étiages de rivières très forts, avec des périodes de climat plus chaud, le refroidissement des centrales électronucléaires va devenir une priorité absolue, avec donc des choix à faire pour répartir l'eau entre tous ces usages, auxquels il faut rajouter évidemment la pêche, et puis également le tourisme et les écosystèmes. Et c'est un des messages de cette conférence de Rome, de dire n'oublions pas les écosystèmes aquatiques.
Alors, les conséquences que vous décrivez sont sans fin et elles sont extrêmement concrètes. Moi, je voudrais parler d'une autre conséquence aussi. Est-ce que ce danger qui pèse sur les eaux et les zones aquifères, est-ce que ce n'est pas également un vecteur de tension, de conflit ? Et si oui, quelles sont les zones à risque ?
C'est déjà une cause de conflit, plus particulièrement de conflits pour le moment locaux. Les conflits commencent au niveau du village, au niveau de la ville, au niveau du bassin versant, puisque bien sûr, un des points essentiels pour nous, c'est de gérer l'eau au niveau des bassins. Le bassin, vous savez, c'est le territoire géographique qui va de la montagne jusqu'à la mer, dans lequel le fleuve coule avec ses différents affluents. Et donc on dit, les hommes, ils ont créé des frontières, l'eau n'en a à peu près rien à faire, elle coule quelles que soient les frontières, mais ces frontières peuvent être aussi des frontières nationales, entre régions, entre communes, entre départements, enfin toutes les circonscriptions administratives qu'on a pu inventer. Et donc déjà à ce niveau-là, et au niveau des différents usagers, entre les agriculteurs qui veulent irriguer l'eau potable de la ville, les gens de la navigation, enfin ceux que je citais tout à l'heure, il y a toujours un moment, s'il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde, où on va se dire, qui est prioritaire, comment est-ce qu'on réduit les consommations, qu'est-ce qu'on fait pour que ça continue à fonctionner. Et donc les premiers conflits vont être là. Alors après, il y a évidemment le problème des très grands fleuves. Mais nous, ce que nous disons, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'il faudrait être bête pour aller se taper dessus pour l'eau, parce que ce qu'on a vu depuis 3 jours à Rome, mais qu'on connaît déjà depuis longtemps avant, c'est que quand on sait s'organiser, quand chacun y met un petit peu de bonne volonté, et pas simplement d'avoir une attitude bornée sur l'eau est à moi, etc., et bien on a des solutions. Aujourd'hui, en Europe occidentale en particulier, enfin au sein de l'Union européenne, on n'en entend plus parler. Or, nous sommes les champions de la complexité de nos rivières. Le Rhin, la Meuse, l'Escaut, la Sarre, la Moselle, le Danube, l'Elbe, tout ces, et puis même les lacs italiens partagés avec des amis suisses. Tout ça, c'est du transfrontalier, pour des raisons historiques bien connues chez nous. Mais ça marche. Ça marche parce qu'il y a un moment où on s'est dit, on est tous solidaires. Et ici, il y a une solution, il faut qu'elle soit commune et que chacun tire les bénéfices de toutes les actions que l'on va devoir conduire. Donc on a la preuve qu'on peut s'entendre et que le fait de s'entendre permet de trouver les solutions.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les solutions pratiques et concrètes, elles existent, oui. Mais elles dépendent d'une vision globale qu'il faut promouvoir.
Exactement.
De la part des politiques.
Exactement. C'est d'abord une décision politique. Vous savez, l'eau, de toute façon, dans quasi tous les pays du monde, est un bien public. Donc c'est évidemment les gouvernements, au départ, qui doivent décider de ce qu'il faut faire. Mais on sait comment s'organiser. On sait quelles sont les techniques aussi, qu'elles soient artificielles ou naturelles, que l'on peut mettre en œuvre. Donc nous, aujourd'hui, on a un message. Ne réinventez pas la roue. Et surtout, ne nous dites pas qu'il faut de l'innovation, qu'on ne sait pas, que si, que ça. Parce que si, on sait, il faudra savoir mieux, mais on sait déjà bien ce qu'il faudrait faire et on a en plus les techniques pour le faire. Donc il faut y aller, il faut y aller tout de suite, parce que dans 10 ans, il sera trop tard. Et tout ce que l'on fera pour réduire les gaz à effet de serre, pour essayer de contrôler le réchauffement, si possible, en dessous de 2 degrés par rapport au début de l'ère industrielle. Tout ça, c'est très bien. Évidemment, il faut le faire. Mais pour nous, les conséquences sur l'eau, on les a déjà. Donc, c'est notre génération et celle qui arrive tout de suite, puisque nous, on est déjà des vieux, qui doit agir pour adapter. Et encore une fois, on a tous les moyens nécessaires, que ce soit au terme de gouvernance, en termes d'organisation de la connaissance, des systèmes de mesure, de la prévision, des outils de modélisation, etc. Et puis les techniques pour le faire, bon, il n'y a qu'à.
Le pape François a adressé un message aux participants de cette conférence internationale. Comment avez-vous reçu ce message? Qu'est-ce que vous en retenez?
Outre le fait que c'est un message fort, c'est bien mieux d'avoir un message de sa sainteté que d'avoir des discussions pendant des heures de spécialistes. La parole porte, sa parole porte. Et le fait de dire l'eau, c'est important, ne vous faites pas la guerre, trouvez des solutions, mais il faut vous mobiliser pour être prêt à temps avant que ça devienne une catastrophe. On en retiendra l'essentiel de son message.
Des propos recueillis par Manuela Affigie.